Bonjour, je suis Julie Gertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, je rencontre Tera qui exerce le métier assez fascinant de médecin légiste à New York. Tera nous ouvre les coulisses de sa salle d'autopsie et de son métier, dont l'image est souvent aseptisée par les nombreuses séries télé. Mais vous allez voir, bien sûr, il n'en est rien. Alors même si on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet du podcast et puis on n'avait pas envie toutes les deux de vous mettre en position de voyeur, j'avoue que les anecdotes que Tera nous cite en intro nous mettent quand même directement dans le bain. Tera a une véritable vocation pour ce métier qu'elle avait décidé d'exercer dès l'adolescence. Elle nous explique qu'il est certes dur, très éprouvant, mais qu'il est tout aussi noble, car il permet en fait de soigner les personnes au-delà de la mort, d'élucider des crimes, de permettre aux familles de comprendre et d'entamer leur deuil, et même parfois de sauver des personnes. Avec Tera, nous allons aussi beaucoup parler de son rapport avec les victimes, qu'elle appelle ses patients, avec la mort et en miroir du coup aussi avec la vie. Tera, mille merci de nous avoir consacré tout ce temps et d'avoir fait l'effort de nous expliquer aussi clairement en français, qui n'est pas du tout ta langue maternelle, je le précise, car moi je trouve que ça s'entend pas du tout, mais je sais que c'était parfois peut-être un peu compliqué pour toi de tout expliquer, notamment la partie technique. Alors je profite de cette petite intro pour faire un chaleureux remerciement à ma cousine Emmanuelle et Emeline, sa copine, qui nous ont permis de nous rencontrer, Tera et moi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti. Bonjour Tera, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors Tera, tu vas faire rêver des tonnes de personnes, alors y compris moi hein, bien sûr, parce que t'es non seulement médecin légiste, mais en plus tu pratiques ton métier à New York. Incroyable, moi j'ai vraiment l'impression de passer au générique de New York Unité Spéciale, je trouve que c'est très très classe. Alors Tera, j'aimerais que tu nous relates une anecdote sur ton métier, une anecdote qui peut être alors bien sûr émouvante, insolite, enfin voilà, quelque chose qui t'a marqué et que tu souhaiterais partager avec nous.
J'ai beaucoup réfléchi à cette question et c'est très difficile pour moi de trouver une seule anecdote particulière à propos de mon travail. Vraiment, c'est un métier où chaque soir, je rentre chez moi et j'ai une histoire complètement dingue à raconter à mon mari lors du dîner à propos de ma journée. J'ai vraiment des centaines d'anecdotes et je ne cesse d'en accumuler. C'est pas facile de trouver une histoire particulière que je peux partager parce que c'est quand même des personnes dont on parle qui ont une histoire médicale que je ne peux pas forcément partager. Une petite anecdote qui m'avait marquée, c'était un jour, j'étais en autopsie le jour de mon anniversaire. J'avais pas vraiment dit à mes collègues ou annoncé que c'était mon anniversaire. Et ce jour-là, j'ai accepté un cas d'un jeune homme qui s'était suicidé aussi, lui, en se jetant d'un immeuble à New York. Ce qui est aussi très commun, malheureusement. Et quand je suis descendue dans la salle d'autopsie et que je préparais un peu ma paperasse pour le cas, j'ai réalisé que ce jeune homme avait la même date exacte d'anniversaire que moi, c'est-à-dire le même jour, le même mois et la même année. Et ce jour, ce jour-là, c'était notre 33e anniversaire. Et ça m'a vraiment marquée. Je sais pas trop bien expliquer pourquoi, mais nous étions là, les deux, à la morgue, ensemble, pendant notre 33e anniversaire, et lui, il était décédé après avoir sans doute vécu une douleur, une dépression intolérable. Et moi, j'étais là à faire son autopsie vivante. C'était un moment que je trouvais complètement... Ça m'a vraiment marqué, on va dire, ou plutôt hanté. Et c'était un peu un moment existentiel, sans précédent, on va dire. Et finalement, une anecdote plutôt pour expliquer un peu les réalités de mon travail et de mon métier, c'est que vraiment, ce n'est pas comme ce que vous voyez à la télé. Il n'y a rien de glamour. Ça peut franchement être un peu dégoûtant. Et je crois que ça, on ne s'en rend pas compte quand on voit ces émissions dont vous parlez. C'est une des premières autopsies que j'ai fait pendant pendant ma formation et qui m'a presque fait, qui m'a presque donné envie de changer de métier en fait, mais pas vraiment. C'est au début de ma carrière, c'était le mois de juillet et on appelle ça souvent decomp season ou la saison de la décomposition. Comme vous pouvez l'imaginer, nos cas ne sont pas toujours tout frais et on a souvent besoin de faire des autopsies sur des cas qui sont décomposés. Et les personnes sont souvent mortes des jours, des semaines ou même des mois avant qu'on les trouve. Et ce phénomène est d'autant plus marqué en été quand les mauvaises odeurs d'un cadavre se font sentir par les voisins dans les couloirs des immeubles et les propriétaires sont appelés à en trouver la source. Et ben voilà, ils ont trouvé, suite à plusieurs plaintes de mauvaises odeurs, un homme qui s'était pendu chez lui. Et quand je suis arrivée pour commencer mon autopsie, mon technicien m'a tout de suite proposé une combinaison hazmat. Et j'ai rapidement compris pourquoi. Cet homme grouillait littéralement. Son cadavre était complètement envahi par des milliers d'asticots en frénésie totale. Et j'ai dû quand même faire l'autopsie avec tout ça.
Terra, on est en audio, on n'est pas en visuel, mais si tu voyais ma tête, j'ai les deux mains sur le visage. Je fais, mais non, c'est pas possible.
Et non, mais c'est horrible. Mais je crois que souvent, quand je parle de mon métier aux gens, ils pensent que voilà, c'est comme à la télé, c'est dans une salle d'autopsie peu éclairée, comme ça, avec une table et que c'est tout propre avec un drap blanc sur la personne, mais en fait c'est vraiment le contraire. Et puis des fois on a affaire à des choses vraiment peu appétisantes ou même carrément dégoûtantes, et puis ça fait partie du travail.
Bah, tu as raison de le souligner, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une réalité, et évidemment qu'à la télé ils peuvent pas montrer ça, parce que je pense que les gens n'ont pas envie, on n'a pas tous vocation, je pense, à être en capacité de bien le vivre aussi. Alors justement, cette anecdote, du coup, elle c'est une très bonne transition. Justement, je voudrais comprendre comment tu as découvert ce métier, comment, à quel moment tu t'es dit je veux en faire mon métier de demain. Et est-ce qu'il y a une raison particulière qui a fait que tu es allée vers cette piste-là?
Oui, alors c'est assez marrant. En fait, ça fait, en gros, la réponse c'est que ça fait depuis que je suis toute petite que j'ai envie de faire ça et que je savais. En fait, j'ai toujours, depuis toute petite, été intéressée par la biologie et particulièrement par l'anatomie. Je voulais comprendre comment fonctionne le corps humain. À quoi servent tous ces organes? Comment sont-ils connectés pour nous faire, pour faire de nous des êtres qui respirent, qui marchent, qui mangent, qui réfléchissent? Et je voulais toujours voir de quoi nous étions composés à l'intérieur. Donc, j'ai grandi en Suisse, à Genève, mais je passais mes étés en Suède, car la majorité de ma famille s'y trouve. Et notamment, on a une maison de vacances dans l'archipel de Stockholm et on passait pas mal de temps à pêcher. Et quand mes parents préparaient le poisson le soir, je leur demandais souvent, en tant que petite fille, si je pouvais faire une autopsie sur l'un des poissons.
Tu avais quel âge à ce moment-là, Terra?
Je sais pas, 8, 10 ans, un truc comme ça. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre ou un peu morbide pour une petite fille, mais je voulais juste voir les organes. Je voulais voir si je pouvais reconnaître les structures, trouver le cœur, et etc. Et au fil des années, en fait, cette curiosité, elle s'est de plus en plus développée. Et en tant que jeune adolescente, donc quand j'avais 13 ou 14 ans, j'ai un ami de famille qui m'a fait découvrir une série de romans policiers d'une écrivaine nommée Patricia Cornwell.
Oui.
Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Si, je connais Terra. Ouais.
Ben, en fait, Patricia Cornwell avait été informaticienne à l'Institut médico-légal de Richmond, en Virginie, aux États-Unis. Et elle s'est inspirée de ce poste pour créer un personnage qui s'appelle Kay Scarpetta. Et c'est une femme médecin légiste. Et c'est la première fois pour moi que j'entendais parler de ce métier. Ça m'a complètement fascinée. Et c'était vraiment comme un coup de cœur, en fait. Ça répondait à toutes mes curiosités sur l'anatomie. Et c'était un métier où on pouvait justement découvrir, d'examiner l'intérieur des personnes. Et en fait, après avoir fini cette série, je me suis plus ou moins décidée que je devais devenir médecin légiste à tout prix et que rien n'allait m'en dissuader ou m'arrêter.
Et alors, dans les études, là, justement, j'aimerais bien que tu nous le décrives. Notamment parce qu'en discutant avec toi en amont de l'interview, tu m'as bien expliqué que les études étaient très longues, aussi longues voire plus même que les médecins généralistes. Donc est-ce que tu veux bien nous décrire ce qu'on y apprend, combien de temps ça dure, quelles sont les spécialités qu'on doit suivre pour être médecin légiste?
Oui, absolument. Donc en fait, en commençant par le début, j'ai commencé ma scolarité en Suisse, mais j'ai fréquenté le lycée là-bas, j'ai passé ma maturité suisse, donc c'est un peu l'équivalent du bac français. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, j'étais déjà déterminée à poursuivre une carrière en médecine légale. Donc je savais déjà à partir de ce moment-là que je devais choisir un cursus scientifique. Je me suis ensuite décidée à aller aux États-Unis. Ma mère est américaine, donc j'avais toujours eu l'idée qu'un jour que je voudrais retourner là-bas, enfin aux US pour l'université. Donc je me suis inscrite et j'ai été acceptée dans une université de Boston qui s'appelle Tufts. Donc ça c'est l'uni où j'ai, après 4 ans, j'ai complété mon bachelor en biologie. Et j'ai dû suivre un cursus pré-médical, donc beaucoup de bio, de chimie, de physique, de biochimie, etc. Et par la suite, j'ai fait 2 ans de recherche dans un grand centre médical à Boston pendant que je préparais ma candidature en faculté de médecine. Ce qui est ici, c'est un procédé assez, enfin, c'est très compétitif d'entrer en médecine. Il faut des tests d'entrée, etc. J'ai eu de la chance, j'ai été prise à mon premier choix à une faculté de médecine à Boston aussi, de Tufts, la même université. Et là, j'ai complété 4 ans de médecine pour avoir mon diplôme de docteur en médecine.
Alors attends, du coup, ça fait combien d'années ça au total?
Là, on en est à 8. Bon, j'ai fait 2 ans de recherche qui ne sont pas obligatoires. Je les ai faites juste pour ma candidature, en fait.
Donc là, pour le plaisir, quoi.
Ouais, voilà. Pas vraiment pour le plaisir. C'est juste qu'il faut vraiment, présenter un dossier compétitif pour être pris en médecine. Et puis, de faire de la recherche, ça peut t'aider. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, pendant que je préparais mon entrée en médecine, justement. Donc, là, on en est à la médecine. Et après, donc, quand j'ai eu mon diplôme de docteur, j'ai dû faire, ce qu'on appelle ici un residency, où c'est un diplôme d'études spécialisées en pathologie. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est, la pathologie, c'est une science médicale qui est pour l'objet les études des maladies. Donc, la pathologie humaine est une spécialité médicale. Et l'anatomie pathologique, c'est l'étude de la morphologie des maladies par un examen soit macroscopique ou microscopique. Et il s'agit vraiment de l'étude des lésions créées par les maladies. Et donc, pour être médecin légiste, il faut faire 4 ans de cette spécialité pour pouvoir ensuite faire la médecine légale. Donc, voilà, j'ai dû m'inscrire et j'ai été prise et j'ai fait 4 ans d'études d'anatomie pathologique et aussi de pathologie clinique dans un des hôpitaux universitaires de Harvard à Boston. Et enfin, après tout ça, j'ai enfin pu entamer ma dernière année de formation en médecine légale, soit une sous-spécialisation en pathologie forensique. Je crois qu'en France, on appelle ça un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Et ça, je l'ai fait à New York, au New York City Medical Examiner's Office. C'est l'Institut médico-légal de la ville de New York. Et c'est une année vraiment incroyable pour moi parce que j'ai enfin ressenti que toutes ces études en avaient valu la peine et que j'ai enfin pu apprendre et pratiquer ma passion. Donc, c'était vraiment au bout de 13 ans d'études que j'ai pu pratiquer ça. Et en fait, j'ai eu la chance d'être recrutée justement par cet institut à New York. Et j'y pratique depuis la fin de ma formation, donc il y a 4 ans.
Et alors, justement, pendant ces études, moi, je serais assez curieuse de savoir ce qu'on vous y apprend. Je parle notamment sur la dernière année. Parce que vous êtes quand même amené à travailler dans le cadre légal. Donc, est-ce que vous avez des notions de droit, de justice? Il y a quand même des notions aussi d'enquête policière. Et la dernière chose aussi, c'est est-ce que vous avez des cours de psy? Alors, pour deux raisons. Psychologie par rapport à... Vous êtes en contact avec soit la famille, soit la victime. On le verra tout à l'heure, vous n'avez pas que des victimes mortes. Donc, vous avez quand même besoin à un moment donné de savoir gérer une partie psychologique et de voilà vis-à-vis de l'entourage et psychologique aussi vis-à-vis de vous parce que c'est dur tout ça. Et donc est-ce que vous avez des cours?
Ben alors franchement non. La réponse c'est que non. Pendant cette année de médecine légale, on nous apprend premièrement à faire des autopsies dans des cas justement de médecine légale ou des cas forensiques. Et je peux préciser ce que ça veut dire plus tard. On nous apprend en fait à travailler en parallèle avec la justice. Et avec, en fait, c'est une collaboration qu'on fait avec la justice et avec la police pour trouver les causes dans les cas de mort suspecte, en fait. Et on nous apprend franchement pas la partie psychologique du tout. Disons qu'en médecine, oui, on a fait ça comme tout le monde d'autre. On a appris un peu psychologie, mais spécialement pour ce travail, non. C'est quelque chose qu'on doit apprendre au fur et à mesure de notre travail quotidien, de parler avec des familles en deuil et aussi d'apprendre à gérer soi-même ses émotions par rapport à ce qu'on voit tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend, c'est juste quelque chose qu'on doit, on doit apprendre à gérer tout seul, en fait. Et ça peut paraître un peu choquant, mais c'est juste comme ça.
Alors, dans quel cas, Tera, on peut être amené à passer dans ton bureau ? Enfin, je veux dire, dans ton laboratoire.
Oui, alors, en fait, dans mon laboratoire.
Je sais pas quel est le bon terme, d'ailleurs, Tera, c'est quoi ? Ton lieu de travail ?
Oui, moi, oui, enfin, justement, je sais pas dire particulièrement, c'est l'Institut médico-légal, c'est la morgue, c'est ma salle d'autopsie, c'est ça mon lieu de travail, en fait. Et oui, donc en fait, pour les cas qui viennent, que nous, on vient à examiner, pour nous, c'est pas n'importe quelle mort ou n'importe quelle personne qui meurt. Donc, toutes les morts naturelles qui se produisent dans le cadre d'un hôpital, ça ne va pas être un cas médico-légal. Nous, les cas qu'on voit, c'est n'importe quelle mort qui est soit pas naturelle, donc toutes les morts violentes, donc tous les accidents, les suicides, tous les homicides, soit les morts naturelles, mais subites et inattendues. Donc, par exemple, des personnes jeunes, sans maladie connue, la majorité des enfants aussi, qui meurent soudainement, en fait, et on ne sait pas pourquoi. Et aussi, tous les décès qui se produisent à l'extérieur, pas dans le cadre d'un hôpital et pas en présence d'un médecin. Donc, tous les décès qui sont à domicile, tous les décès qui sont dehors, dans l'environnement, à l'extérieur, dans les parcs, les forêts, des rivières. Tous ces cas-là, en fait, viennent à être investigués par notre bureau.
Et qui décide que ces personnes-là doivent arriver à la morgue ? Je veux dire, est-ce que c'est une décision de justice ? C'est les policiers ?
Oui, exactement, c'est la police. En fait, eux, ils savent tout de suite que si, par exemple, ils trouvent un corps dans un parc, évidemment, ça va être un cas de médecin légiste et pas, ils vont pas juste l'amener à une morgue et c'est tout. Il faut qu'on découvre pourquoi la personne est morte. Et aussi, par exemple, si même une vieille dame meurt toute seule chez elle dans son appartement, vu qu'elle n'était pas en la présence d'un médecin, il faut appeler, la police sait qu'elle doit nous appeler pour qu'on vienne voir, qu'on soit sûr qu'il n'y a pas quelque chose de suspect ou de criminel. Et même si on n'a pas besoin de vraiment faire une autopsie sur cette dame-là, on va quand même venir la voir, faire un examen physique et être sûr qu'il n'y a pas de plaies ou de blessures ou de choses suspectes chez elle.
Ok. Et alors, dans quel grand type de cas donc les gens arrivent ? Est-ce que c'est donc tu parlais d'accidents, etc. Mais tu évoquais tout à l'heure aussi les overdoses. J'ai aussi en tête que tu m'avais expliqué que ça peut t'arriver de pratiquer des choses sur des vivants. Et donc, dans quel cas de figure ? J'avais une autre question, c'est est-ce que vous pouvez avoir ce rôle-là d'identification de victimes dont qu'on ne pourrait pas reconnaître. Je pense par exemple à un crash aérien ou un attentat. Est-ce que ça peut être ce travail de recherche d'ADN peut être dans vos cordes?
Oui, absolument. En fait, pour en revenir à ce que vous dites sur les personnes vivantes, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on fait dans notre bureau. Je crois qu'en Europe, c'est souvent en fait que les médecins légistes sont responsables de faire des examens sur des personnes vivantes parce que c'est des spécialistes sur les blessures. Donc, par exemple, des victimes de viol ou d'accidents, et des fois les médecins légistes font des examens sur ces personnes-là. Mais ça ne se fait pas beaucoup ici aux États-Unis. Moi, je l'ai certainement jamais fait sur une personne vivante. C'est vraiment quelque chose qui se pratique en Europe. Donc tout, oui, vraiment tous mes cas sont des gens qui sont décédés. Et ensuite, la seconde partie de votre question, c'était sur
La recherche ADN.
Oui, absolument. Donc, une grande partie de ce qu'on fait aussi, c'est l'identification, comme vous le dites. Souvent, des personnes sont pas identifiées. C'est une personne qui est trouvée dans un champ, par exemple. On ne sait pas qui c'est. On n'a pas de nom. Il n'y a pas de portefeuille avec leur nom et leur identité. Donc, à ce moment-là, c'est la responsabilité de notre bureau de les identifier, justement. Et on fait ça souvent par des radios, et souvent on interpelle des dentistes pour venir essayer de faire des comparaisons pour identifier la personne, ou justement des prélèvements d'ADN qu'on fait sur tous nos cas d'ailleurs. Donc oui, c'est une grande partie de ce qu'on fait, c'est l'identification.
Ok, et est-ce que en ce moment, avec le Covid, ça a un impact sur votre métier?
Ah oui, ah oui, ça a complètement bouleversé un peu notre bureau cette année. Premièrement, je devrais expliquer que les cas Covid, quand on sait que c'est un cas de Covid, ça ne tombe pas sous notre juridiction, car ce sont des morts naturelles. Et donc, ces gens-là meurent de Covid à l'hôpital, on n'a pas besoin de faire une autopsie. On sait de quoi ils sont morts, et sont morts dans l'hôpital en présence d'un médecin. Donc, y a pas vraiment de rôle pour nous. Par contre, il y a beaucoup de gens, comme vous pouvez l'imaginer, pendant cette pandémie, qui sont morts à domicile, justement, chez eux. Donc, dans tous ces cas-là, en fait, normalement, ce qu'on ferait en temps normal, c'est qu'on irait, on enverrait un de nos investigateurs pour prendre des photos, pour être sûr qu'il y a rien de suspect dans l'appartement, qu'il n'y a pas d'autres possibilités, en fait, que la personne soit tombée, qu'elle se soit blessée, que quelqu'un d'autre l'ait tuée ou quoi que ce soit. Et on fait un examen pour être sûr qu'il y a vraiment rien de suspect. Mais en fait, il y a eu tellement de morts pendant le Covid que c'était impossible de se rendre dans tous ces domiciles pour faire des examens sur tous ces décès. Donc, on a dû complètement changer notre manière de faire les choses. Et au lieu d'envoyer quelqu'un dans chaque maison, on a demandé à la police de prendre quelques photos et de nous appeler et de nous envoyer les photos pour être sûr qu'il n'y avait rien de suspect ou d'anormal. Et là, normalement, en une journée, on en a, je sais pas, une quinzaine de cas comme ça, mais pendant le Covid, c'était des centaines par jour. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, nous, notre travail, il s'est complètement changé. Au lieu de faire des autopsies, en fait, on n'avait pas la possibilité de faire des autopsies sur tout le monde. Et on a dû, en grande part, gérer les téléphones et puis parler avec justement ces détectives et ces policiers qui étaient à domicile et essayer de voir si c'était un cas qui nous inquiétait, qu'on devait amener pour faire un examen ou pas.
Ok. Et dans toutes les activités que tu as à mener, Terra, est-ce que tu saurais nous dire quelle est la part entre l'autopsie, le fait de faire des rapports qui doivent être très importants, le fait de potentiellement aller plaider auprès de la justice et probablement que j'oublie d'autres activités. Quelle serait la proportion de chacune de ces activités?
Oh, c'est dur de parler vraiment en proportion, mais disons que sur une semaine à peu près, normalement, je suis d'autopsie, donc vraiment des journées d'autopsie, on en a peut-être trois ou quatre. On travaille souvent les week-ends et les jours fériés aussi. Et le reste du temps, on est justement de paperasse. Enfin, on fait justement les rapports, on fait notre microscopie, on fait nos journées où on va témoigner dans les cours de justice. Et aussi, on fait pas mal d'enseignement avec les étudiants en médecine ou en pathologie. Donc les autopsies, c'est à peu près, on va dire, un tiers de ce que je fais, et le reste, c'est plus administratif.
Ok. Et est-ce que tu peux, pour qu'on essaye de se rendre compte, l'autopsie, combien de temps dure l'examen? Alors, tu nous as glissé une information tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait à peu près 15 autopsies par jour, si j'ai bien compris. Mais combien de temps dure une autopsie sur un corps? Quelles sont les grandes étapes? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une espèce de schéma qui se reproduit? Voilà.
Oui, alors des autopsies, voilà, je dirais que en une journée à peu près normale, juste en mon bureau à New York, on fait à peu près entre 8 et 12 autopsies. Et on a trois bureaux comme ça, il y en a un à New York à Manhattan, il y en a un autre au Queens et il y en a un autre à Brooklyn. Donc chaque jour dans la ville de New York, on va dire à peu près qu'on fait une trentaine d'autopsies. Et on est souvent trois, voire quatre médecins légistes par endroit à faire des autopsies ce jour-là. Donc, normalement, en une journée typique, on fait à peu près entre une et trois autopsies chacun. Donc, il y a certaines, toutes les autopsies ne sont pas équivalentes. Il y a des autopsies, par exemple, les overdoses. En fait, d'habitude, c'est une personne qui est plutôt jeune, qui n'a pas d'autres problèmes médicaux, qui est en bonne santé, sauf qu'ils font, ils ont fait de la drogue et puis ils sont malheureusement décédés à cause de ça. Donc, ces cas-là, ils sont entre guillemets faciles. On n'a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas de blessure normalement, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie naturelle. Et ces cas-là sont plutôt rapides. Je dirais que la plupart d'entre nous, on peut faire un cas comme ça en 45 minutes. Et j'expliquerai les étapes dans quelques minutes. Et par contre, si c'est un cas vraiment complexe, par exemple un homicide où la personne a, je sais pas, une dizaine de coups de balle, ou quelqu'un qui s'est fait poignarder 50 ou une centaine de fois, ben voilà, ces cas-là sont beaucoup plus complexes. Il y a beaucoup plus de travail à faire, des dissections qui sont un peu spéciales, et ces cas-là peuvent prendre toute une journée. Donc, j'ai souvent fait des autopsies qui m'ont pris 8-9 heures, ou même des autopsies que j'ai dû commencer un jour et finir le lendemain tellement ils étaient compliqués. Alors, les étapes de l'autopsie. Premièrement, on fait un examen du corps tel qu'il arrive à la salle d'autopsie. Donc, on fait l'examen des habits qu'il porte. On les enlève, on prend des photos. Évidemment, on pèse la personne, on prend d'autres mesures. Je fais un examen externe. Donc, je regarde le corps vraiment comme il est. Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des cicatrices, des tatouages, etc.? Et ça, c'est l'examen externe et on prend beaucoup de photos pendant cet examen-là. Et ensuite, la deuxième partie, justement, c'est l'examen interne. Donc, on fait des incisions chirurgicales sur le corps et sur la tête. Et on enlève un à un les organes et on les pèse, on les examine, on prend des photos. Et justement, on fait ça avec tous les organes, y compris le cerveau. Donc, on prend une scie, on ouvre le crâne et on enlève le cerveau et on fait un examen du cerveau aussi. Donc, ça, c'est les étapes principales sur une autopsie simple. Et il y a d'autres cas où on doit faire appel à des techniques de dissection un peu plus complexes. Par exemple, il y a certains cas où on veut essayer de trouver des blessures qui sont sous la peau, qu'on ne voit pas très bien. Et on doit vraiment faire ce qu'on appelle un filet. On enlève la peau du corps pour voir mieux les blessures. Et dans certains cas, surtout les cas pédiatriques, des fois on est appelé à enlever, à retirer les yeux, à faire vraiment des techniques spéciales ou retirer de la moelle épinière ou autre. Donc c'est dans ces cas-là, c'est comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus complexe et ces cas-là prennent beaucoup plus de temps.
D'accord. Et est-ce que une des étapes, il y a toute la partie restauration du corps pour pouvoir après remettre le corps à la famille?
Alors ça, ce n'est pas nous, ce sont les pompes funéraires en fait qui s'occupent de ça. Donc nous, on fait notre autopsie et puis notre technicien nous aide un peu à refermer le corps, mais c'est tout. Et après, c'est les maisons funéraires qui viennent chercher le corps chez nous et c'est eux qui font toute cette étape de préparation pour.
D'accord, ok.
Nous, on n'a rien à voir avec ça.
Ok, ça marche. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire le cadre dans lequel tu travailles? Parce qu'on a tous l'image, bon, qui est très, comment dire, très orientée et forcément, parce qu'on a l'image des séries, hein, télé. Donc, on imagine une salle de morgue avec, ouais, tout carrelé, assez froid, assez grand, assez hygiénique, on va dire. Bon, c'est ce qui paraît normal. Est-ce, voilà, est-ce que tu peux nous décrire un peu le cadre de ton travail?
Oui, alors disons que c'est un peu comme ce que tu décris, c'est une grande salle. On a à peu près, je crois, 6 ou 7 tables d'autopsie. Donc, c'est des grandes tables en métal qu'on peut monter ou descendre. En fait, c'est... qui est très différent de la télé, c'est que c'est pas juste une personne qui fait une autopsie toute seule, un peu dans un coin, dans l'ombre. Il y a souvent 4-5 autopsies qui se déroulent en même temps. Et il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de gens dans la pièce, il y a des grandes lumières. C'est pas très stérile, il y a beaucoup de sang un peu partout. Je crois que c'est ce qui choque vraiment les gens, c'est qu'à la télé, évidemment, on veut pas montrer cet aspect du travail, mais c'est vraiment très, enfin, il y a beaucoup de temps, évidemment, et il y a beaucoup de son aussi. Il y a souvent le son de la scie électrique qui ouvre le crâne, par exemple. On n'entend rien quand il y a une scie qui fonctionne, et puis il y en a souvent 3 ou 4 qui fonctionnent en même temps. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout calme en fait comme environnement et puis c'est très animé.
D'accord. Alors justement, vous travaillez donc en équipe. Ça, c'était un point que je voulais voir avec toi effectivement. Tu sembles dire qu'il y a donc le médecin légiste, des techniciens. Quel corps de métier il y a pendant une autopsie?
Oui, ben c'est ça. Il y a justement les médecins légistes, il y a les techniciens, il y a aussi les photographes. Qui sont spécialisés justement pour la photographie forensique, donc ils savent, ils ont l'habitude de prendre des photos d'organes ou d'autres trouvailles d'autopsie. Ils sont normalement deux ou trois qui sont présents, ou peut-être un seul des fois qui est présent, qui prend des photos de tous les cas. Il y a aussi souvent justement des étudiants qui sont présents aussi, qui regardent. Il y a des étudiants en médecine, des residents, qui sont en pathologie justement, qui font leur formation de pathologie et ça c'est oui. Partie de leur formation. Ils doivent faire un peu de médecine légale, donc ils viennent pendant un mois chez nous. Donc il y a beaucoup de ces gens-là qui sont présents. Et sinon, il y a aussi des spécialistes qui viennent récupérer l'ADN et les bocaux avec les organes et tout ça, et qui mettent ça, je ne sais pas comment dire, into evidence.
Oui, comme étant des preuves, ils le mettent voilà. Sous scellé, quoi.
Exactement. Mm-hmm. Donc okay. Oui, et puis souvent même, il se peut que la police ou les détectives viennent nous voir pendant l'autopsie pour voir ce qu'on trouve en fait.
Ouais, alors ça, c'est ce que j'avais lu effectivement et j'étais étonnée. Bon, il faut qu'ils aient le cœur aussi bien accroché, mais bon, j'imagine que c'est une question d'habitude. Hein. Ok. Est-ce que, en termes d'instruments, alors tu parlais des scies, moi, ma question, elle était plus large. Est-ce que, voilà, quel type d'instruments vous utilisez? Jusqu'où ça va? Est-ce que vous allez dans les radios pour pouvoir détecter certaines choses dans le corps? Est-ce que les instruments ont énormément évolué? Alors, même si toi, ça fait pas non plus 30 ans que tu travailles dans le milieu, mais est-ce qu'ils ont évolué? Jusqu'où vont leurs prouesses, en fait?
Bon, alors, à mon avis, les instruments n'ont pas beaucoup évolué. On utilise, comme à l'époque, des scalpels, des couteaux, des grands couteaux, comme ce qu'on voit vraiment chez le boucher, des grands couteaux, pour couper les organes, pour pouvoir les examiner. On a des pinces, enfin vraiment rien de spécial, des trucs, c'est pas du tout c'est pas des outils spécialisés comme des chirurgiens, pas vraiment. Enfin, on a juste des outils très simples pour mener l'autopsie. Sinon, oui, on utilise les scies et tout ça, comme je l'ai dit. Et aussi, oui, la radio, ça dépend des cas. On fait souvent des radios sur les corps avant de faire l'examen, justement, avant de faire l'autopsie. Et surtout, si on cherche des balles pendant un homicide, par exemple, il faut pouvoir voir d'avance combien il y a de balles dans le corps, combien on va en récupérer. Donc, on fait des radios avant le cas pour savoir à quoi s'attendre. Sinon, bien sûr, on fait dans presque tous les cas des prélèvements pour la toxicologie. Donc, on prend du sang ou bien de la vitrée, des yeux et d'autres organes justement pour les donner à notre centre de toxicologie pour faire des tests là-dessus. Oui, c'est à peu près tout.
D'accord, donc ce qu'on voit dans les séries, bon, bah, tu nous avais prévenu en amont hein, quand même que c'était complètement romancé, mais où tu découvres le lieu de la mort parce que tu l'étudies au microscope et tu vois que la larve n'existe que à tel endroit du globe, et précisément tu arrives à localiser le lieu du meurtre à 1 kilomètre, ça, c'est, ça n'existe pas.
Ben, disons que c'est non, c'est pas vraiment possible en fait de faire ces choses-là. Par exemple, on me demande souvent, bon, alors tu peux déterminer exactement la minute de la mort. Alors non, c'est pas possible. Il y a pas de science derrière ça. On peut dire à peu près que cette personne est peut-être morte entre midi et 2 hier, ou il y a 3 jours ou il y a 1 semaine, mais de dire exactement à la seconde précise où cette personne est morte, c'est vraiment un truc qu'on voit à la télévision.
Ouais, d'accord, ok. C'est un métier qui est plutôt d'hommes ou la parité se développe ?
Historiquement, c'était plus un métier d'hommes, mais maintenant, c'est vraiment plus un métier de femmes. D'ailleurs, à New York, je crois qu'on est un peu plus de 30 et c'est une grande majorité des femmes. Je crois qu'on est à peu près 75%, pardon, je devrais dire 75%, c'est mon côté suisse qui ressort là. Oui, 75%, c'est des femmes dans mon bureau. Et d'ailleurs, la médecin légiste en chef est une femme, les députés sont aussi des femmes, 2 sur 3, donc c'est vraiment, je crois qu'on commence justement à avoir de plus en plus de femmes dans ce métier.
Alors, je t'avais posé une première question, tu sais, quand on s'était eu au téléphone, parce que c'était un truc qui me taraudait. C'est, est-ce que c'est pas compliqué par rapport au médecin de ne pas avoir ce rôle de sauveur? C'est-à-dire que quand les gens arrivent dans ta salle d'autopsie, c'est un peu trop tard. Donc, par rapport à d'autres médecins qui ont fait des longues études comme toi, mais qui peuvent avoir ce sentiment de pouvoir et même d'épanouissement, on va dire, de pouvoir sauver des vies. Comment toi, tu le vis, ça ?
C'est une très bonne question. Et en fait, ça, je crois qu'on y pense tous en tant que médecin légiste à cette question-là. Parce que vraiment, toutes les autres spécialités de médecine ont pour but de guérir les gens, comme tu dis, que ce soit la chirurgie, la pédiatrie, la neurologie ou autre. Elles ont tout l'intérêt de prolonger la vie. Bon, à part certaines branches particulières comme les soins palliatifs et tout ça. Et la mort est vue vraiment comme une sorte de défaite. Mais ce qui me plaît vraiment avec la médecine légale, c'est que nous avons l'occasion de, entre guillemets, soigner une personne au-delà de la mort. Nous faisons un examen médical final, vraiment le dernier que cette personne aura, pour comprendre pourquoi elle est décédée. Et nous espérons amener des réponses à des familles en deuil. Et nous espérons servir la justice avec des preuves physiques, justement, dans des cas d'homicide. Et nous espérons aussi prévenir d'autres morts par la même maladie dans le futur. Donc, c'est vrai que je crois que beaucoup de branches de médecine voient peut-être la pathologie ou la médecine légale comme presque... justement non médical dans un certain, enfin pas comme une branche de médecine parce qu'on n'essaie pas d'aider les gens, mais pour moi c'est vraiment une continuation et c'est pour ça que j'aime tant ça et je trouve vraiment qu'on a un rôle très important et c'est ça vraiment qui fait que j'aime mon travail, qui fait que je continue ce travail difficile, qui est psychologiquement difficile des fois, c'est que vraiment, je trouve que notre rôle est tellement important que je ne peux pas m'en passer.
J'avais lu, tu sais, pour préparer l'interview, le résumé, enfin une citation en fait d'une personne qui a écrit un livre sur, j'ai plus le nom en tête, mais qui a écrit un livre sur la médecine légale. Et il expliquait à quel point c'était important. Il disait en fait, raconter la fin de la victime, c'est lui rendre une parcelle de vie, c'est redonner son humanité au corps. Il marque le retour du mort parmi les vivants. On prouve que c'était avant tout une personne qui a des droits, on restaure sa dignité et on soulage la famille en l'aidant à comprendre ce qu'il s'est passé. J'ai trouvé que lui redonner une place de vivant, parce que cette personne-là, forcément quand tu l'autopsies, tu imagines ce qui s'est passé dans ses derniers instants, tu restaures aussi en tant que vivant puisque tu lui restaures sa dignité, il n'y a pas de raison qu'elle soit morte sans qu'on cherche à savoir pourquoi. Enfin bref, je trouvais que c'était très juste, enfin c'est tout ce que tu viens de nous dire effectivement.
C'est tout ce que je viens de dire, sauf beaucoup mieux dit.
Alors, c'est un écrivain, alors peut-être que lui, il a passé du... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a peut-être passé 15 heures à écrire ces phrases-là. Hein. Mais je trouve que c'était très juste.
Ah oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit.
Et moi, justement, en lisant ça, m'est venue une autre question, c'est quel rapport tu as avec les victimes ? Je m'explique. Est-ce que tu essayes de te projeter dans ce qu'ils étaient vivants, de te raconter leur histoire, d'où ils viennent, enfin voilà, est-ce qu'ils sont avec toi?
Oui, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire et on peut pas le faire dans tous les cas parce que vraiment, en ce moment, enfin, je pense que dans ma carrière, j'ai dû faire peut-être 900, 1000 autopsies, quelque chose comme ça. Et on peut pas s'investir comme ça dans chaque cas, je dirais. Mais en tout cas, le moment où je fais l'autopsie, quand ils sont sur ma table et que c'est mon patient en quelque sorte, dans ce moment-là, j'ai envie de trouver une réponse, j'ai envie de comprendre qui ils étaient, ce qui leur est arrivé et ce qui s'est passé dans leur dernier moment. Dans certains cas même, j'ai envie d'en savoir plus sur la personne, qui elle était avant ce moment-là. Ça m'arrive de chercher des personnes sur Facebook pour voir à quoi elles ressemblaient quand elles étaient pleines de vie, qu'est-ce qu'elles aimaient faire. Il y en a qui sont bloqués ou privés, donc on voit rien, mais d'autres, on peut voir que oui, la semaine passée, ils étaient en voyage quelque part. Et ça me connecte un peu avec leur humanité, justement, parce que quand elles sont décédées sur la table, froid et sans mouvement, on a de la peine à les imaginer en vie. Et certaines personnes, pour me connecter à eux, justement, j'ai besoin de voir cet aspect de leur vie pour comprendre mieux leur mort. Et bon, on peut pas trop le faire, s'investir comme ça, parce que c'est quand même émotionnel et ça dépend vraiment des cas. Mais j'essaye aussi de parler avec leur famille, de comprendre qui elles étaient. Et justement, les familles, on appelle chaque famille en fait après une autopsie ou même avant des fois pour parler de ce qu'on va faire. Et je trouve ça vraiment important en fait de comprendre le deuil de la famille, de comprendre quelles questions ils ont. Et aussi, les familles me décrivent souvent qui était la personne avant leur mort. Et ça m'aide aussi à me sentir connectée à ces personnes. Et je trouve que ça peut être très important.
Mais alors, à l'inverse, j'imagine que forcément, tu dois mettre de la distance, ne serait-ce que pour te protéger, mais aussi probablement pour garder une certaine objectivité. Parce que tu dois être impartial dans tes investigations. Comment tu gères ça, justement? Est-ce que vous avez des garde-fous? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que s'il y a un cas qui te touche trop, tu peux être amené à dire « c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, c'est pas moi ou... »
Bon, oui. Enfin, ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est clair qu'on doit rester objectif. On ne peut pas trop s'investir parce que notre but, justement, c'est de trouver des réponses, c'est de trouver la cause du décès. Et même si j'ai envie de me connecter avec la personne, il faut avant tout que quand elle est sur ma table, que je décide, voilà, c'est mode professionnel et on va trouver la lésion, on va trouver la pathologie, justement. Donc, à ce moment-là, je m'en sépare d'une manière pour pouvoir rester objective. Et je crois que c'est très important. Et aussi, comme tu le dis, il faut que je puisse rentrer chez moi le soir et pas faire des cauchemars et pas me sentir complètement bouleversée par ma journée et ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu pendant la journée. Donc, il faut à un certain moment voir ça comme un cas et une réponse à trouver et puis un travail à faire. Donc, j'arrive encore facilement à m'en séparer pour la plupart des cas. Il y en a qui sont beaucoup plus difficiles, notamment pour moi, c'est les enfants, tous les cas de bébés ou d'enfants en bas âge. J'ai beaucoup de peine à m'en séparer car j'ai des enfants à la maison et j'ai de la peine à rentrer et à pas réfléchir et à pas penser aux horreurs que j'ai vues pendant la journée. Des fois, c'est impossible.
Et comment tu fais dans ces cas-là ? Parce que ça t'arrive, malheureusement.
Ça arrive, ouais.
Quelle méthode tu utilises ? Est-ce que vous avez... quelle méthode personnelle ? Mais aussi, est-ce que vous avez des soutiens ? J'entends des soutiens psychologiques, par exemple,
oui,
dans le cadre de votre travail.
Oui, on a des soutiens psychologiques. On n'y fait pas souvent recours, mais on a des thérapeutes et tout ça à qui on peut parler si on a vraiment, si on en a besoin. Ils sont là, surtout... pendant des grands événements qui étaient traumatiques pour tout le monde. Par exemple, beaucoup de mes collègues étaient là pour le 11 septembre 2001. Donc, ils ont beaucoup de traumatismes et ils ont eu besoin d'en parler avec des gens. Et sinon, juste pour nos cas quotidiens, des fois, c'est dur de gérer. Donc, on a des ressources, justement, pour ce genre de problème. Mais d'un niveau personnel, je dirais que oui, il y a des jours où je rentre chez moi et j'ai vraiment besoin de pleurer pendant une heure et de me faire consoler par mon mari et puis en parler de ce que j'ai vu et de comment ça m'a affecté. Et puis, en général, ça m'aide vraiment de pouvoir en parler avec quelqu'un qui m'aime et qui me comprend et qui connaît mes faiblesses. Ça m'aide et heureusement, j'ai un mari qui me soutient là-dedans et ça ne dérange pas d'entendre ces histoires parce qu'il sait que ça m'aide à passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est dur. J'ai des collègues qui ont voulu justement quitter ce travail, ce métier parce qu'ils en pouvaient plus justement. Ils n'arrivaient pas à se séparer de ce qu'ils voyaient, de la douleur, du deuil des familles et ils ont voulu choisir une autre carrière en fait.
Mais ce que je trouve compliqué, c'est que dans votre métier, mais il y en a d'autres hein, comme ça, hein, mais vous n'êtes confronté toute la journée, qu'au malheur des autres et à ce qu'il y a de pas de pire dans la société, mais si, forcément, parce que bah, des overdoses, des crimes, c'est toute la partie un peu sale de ce qui nous de la société et comment on arrive à ne pas se laisser envahir par une vision totalement morbide et négative de la vie.
Je peux tout à fait comprendre cet argument et c'est dur. C'est vrai qu'on voit des choses très négatives, très tristes et très choquantes toute la journée. Mais franchement, je crois que les médecins légistes ont aussi, ils arrivent à voir un peu le positif. Et en fait, on passe beaucoup de temps aussi. Bon, tout le monde est passionné de ce travail et on passe beaucoup de temps à rigoler et à plaisanter et c'est vraiment un environnement assez agréable en fait notre travail. Je sais que ça peut paraître bizarre mais je crois qu'ils font un caractère où on peut justement voir ça tous les jours et puis quand même rentrer le soir et rigoler avec des amis ou profiter de la vie sans penser à ces choses. Je sais pas comment dire, je dirais que c'est presque un trait de caractère qu'il faut avoir pour pouvoir s'en séparer. Si on est trop facilement envahi de tristesse par rapport à nos cas, on peut pas faire ce travail. Donc, il faut forcément qu'on ait un mécanisme pour s'en séparer d'une manière ou d'une autre et de continuer à vivre sans tout le temps penser à toutes les choses malheureuses qui pourraient nous arriver.
Nous arriver, ni quelque part à vivre dans la crainte de ce qui pourrait arriver à toi, à tes enfants. Enfin, tu vois, en gros, c'est comment tu vis pour ne pas penser qu'il y a un psychopathe à chaque coin de rue, quoi.
Ben, en fait... je crois qu'il y a un psychopathe à chaque coin de rue.
Mais non, Terra, tu peux pas nous dire ça, on va tous flipper.
Non, mais c'est vrai. Enfin, je crois que, en tant que médecin légiste, je dois dire que je suis peut-être un peu parano. Genre, quand j'ai vu tellement de gens tomber ou se faire pousser quand le métro arrivait, que moi, je m'accrochais un peu tôt quand il y a le métro qui arrive. Je suis 10 mètres en arrière, derrière tout le monde, je m'accroche à quelque chose, et puis parce que j'ai pas envie de finir sur les rails du train en 1000 morceaux. Donc, ou par exemple, quand je me promène à Manhattan, je suis tout le temps en train de regarder en l'air parce que je me dis, ça y est, c'est aujourd'hui qu'il y a un échafaudage qui va tomber pile là maintenant pendant que je suis en train de marcher. Et c'est clair que je fais très attention avec mes enfants, traverser la route, j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui s'étouffe, hein, je suis un peu, je suis un peu parano aussi de ce côté-là, bon, pas au point.
Mais parce qu'en fait, dans les faits, c'est 0,01% des cas, mais sauf que toi, c'est 100% de ta journée,
voilà.
Tu vois, donc je comprends que ça assure, enfin, tu vois, ça donne beaucoup d'importance à tout ça.
Exactement.
Et du coup, même dans l'éducation de tes enfants, ça doit être compliqué. Comment ne pas transmettre cette crainte de la vie, quoi? C'est compliqué.
J'essaye et j'ai le caractère quand même assez relax, je dirais. Je suis pas tout le temps en train de me dire qu'ils vont aller avaler un truc de travers ou qu'ils vont se faire jeter par une voiture, mais je suis quand même peut-être un peu plus parano, oui, que les autres.
ou consciente, hein, peut-être.
Voilà.
Et alors, globalement, tu peux te dire que ton métier, qu'est-ce que ça t'a apporté, ou quel est ton rapport à la mort et à la vie, et en quoi ton métier l'a influencé?
Ben c'est compliqué, je dirais, mais ça m'a influencé dans le sens où bon, je profite beaucoup aussi de la vie parce que je sais que d'un moment à un autre, justement, il y a un échafaudage qui peut me tomber dessus et puis tout peut s'arrêter. Donc, j'essaie vraiment d'apprécier la vie, les petits moments qui nous font plaisir, les enfants, la famille, les amis, de rigoler beaucoup et de vraiment profiter un maximum parce qu'on ne sait pas quand ça va se finir. Et aussi, j'ai la mort, même si c'est quelque chose qui me fait peur à moi comme à tout le monde d'autre, ça fait tellement partie de mon quotidien et que je l'apprécie peut-être plus que la plupart des gens, comme presque une partie de la vie en quelque sorte. Vu que je sais que, bon, tout le monde sait qu'on va mourir, mais je sais qu'on va mourir et pas forcément quand on s'y attend. Mais je sais pas, je vois une certaine beauté dans la mort et surtout dans mon métier, dans mon travail, de pouvoir vraiment trouver des réponses et trouver, je sais pas, une espèce de finalité pour la famille. Ça m'aide en fait à comprendre la mort et d'en trouver quelque chose de beau. Par exemple, je sais pas, j'ai eu récemment un cas d'un jeune homme qui est mort très soudainement. Il était très jeune, il était adolescent. Il avait toujours été en très bonne santé et puis sa famille ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et pendant l'autopsie, j'ai rien vu de vraiment d'anormal, mais j'ai fait des études moléculaires génétiques qui ont montré qu'il avait une mutation cardiaque qui peut causer une mort subite. C'est à cause d'un changement arythmogène dans son ADN. Et vu que beaucoup de ces mutations sont génétiques et familiales, c'est important pour sa famille de savoir s'ils le veulent et de se faire tester justement pour cette mutation en question. Donc, je les ai appelés, j'ai expliqué ce qu'on avait trouvé, tout ça. Et puis, ils étaient tellement reconnaissants parce qu'ils ont pu justement parler au cardiologue de leur fils, le frère justement de cet homme. Et puis, essayer de trouver une solution avec le cardiologue pour faire des tests génétiques. Et ils m'étaient tellement reconnaissants d'avoir trouvé cette réponse. Et c'est presque comme si ça donnait la vie, en quelque sorte, à cette famille, même s'ils ont perdu justement leur fils, qu'ils puissent faire quelque chose pour leur autre fils. Et En
fait, tu sais ce que ça me fait penser, Terra, à quelque chose. Je réalise qu'il y a un vrai parallèle avec également le processus de don d'organes, où les familles, en fait, sont endeuillées, mais vivent ça comme une mort qui a du sens.
Exactement. Parce
que l'organe de leur enfant ou de leur proche permet de donner la vie, enfin de sauver la vie de quelqu'un d'autre, et comme si tout ça avait un sens. Et je pense qu'effectivement, le fait que vous donniez une explication, en dehors du cas là, que tu viens de nous décrire, le fait que vous donniez un sens à ce qui s'est passé, une explication, je pense que ça aide énormément pour la suite, et notamment dans le processus de deuil des familles, quoi.
Exactement. Et c'est vraiment, à mon avis, c'est pour ça que la plupart de nous faisons ce qu'on fait et qu'on est dans ce métier. C'est parce que d'amener cette réponse finale à quelqu'un, ça fait que tout le reste en vaut la peine.
Et est-ce que tu peux avoir la trouille de passer à côté, que ça, voilà, à être amené à faire acquitter une mauvaise personne ou au contraire accuser une personne qui n'est finalement pas le coupable? Est-ce que tu as aussi la trouille, sais, du fameux crime non élucidé, t'es passé à côté, le truc qui te rend dingue et qui te fait faire des cauchemars la nuit, tu vois?
Absolument, dans les deux sens, justement, qu'on fasse, soit qu'on trouve quelque chose et qu'on appelle quelque chose, enfin, un homicide, par exemple, alors que ça ne l'est peut-être pas, ou au contraire, qu'on passe à côté de quelque chose et qu'on manque d'appeler quelque chose un homicide qui l'était en réalité. Bien sûr, ça nous perturbe à fond. Et je me demande souvent si ça m'est arrivé, et sûrement que ça m'arrivera dans ma carrière, que je le sache ou pas. Mais c'est évidemment une grande responsabilité qu'on a. Souvent, les gens me disent, bon, les décédés, ils sont morts, tu peux pas faire d'erreur, tu vas pas tuer quelqu'un. Non, c'est vrai, je vais pas tuer quelqu'un à travers mon travail, mais par contre, si quelqu'un va en prison pour sa vie à cause de moi, à perpétuité, à cause de quelque chose que j'ai dit qui était faux, ben alors là, pour moi, c'est tout aussi grave que de tuer quelqu'un pendant une chirurgie. Donc, je crois qu'il y a une grande part de responsabilité dans ce qu'on fait. On essaie de ne pas trop y penser à cette possibilité, de rester objectif et d'avoir un procédé très précis qui ne permet pas ce genre d'erreur. Mais bon, c'est clair que ça me fait peur qu'on puisse louper quelque chose.
Ok. Tu veux bien nous parler de ton activité artistique, s'il te plaît? Tu m'as envoyé des photos et heureusement que ton ami t'a poussé à le faire, parce que je trouve ça super et je voudrais que tu nous décrives à quoi ça correspond et à quoi ça te sert, en fait.
En fait, justement, tu me demandais avant comment je fais pour un peu me détacher de mon travail, ou comment est-ce que je fais pour gérer ces émotions que je peux avoir justement face à mon travail et des choses que je vois. Une chose, c'est la famille et tout ça, de rigoler, de penser à autre chose, tout simplement. Mais une autre, c'est justement dans l'art. Ça fait depuis que je suis toute petite que j'adore l'art aussi, que je fais beaucoup de dessins, je fais des pastels. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu relaxée, c'est un peu cathartique. C'est de faire quelque chose auquel j'ai pas besoin de réfléchir, en fait. C'est juste, c'est une activité pour moi qui est très paisible et qui m'aide à me détendre. Et justement, quand j'ai commencé mon travail en tant que médecin légiste, j'étais très inspirée par mes cas. Et j'ai trouvé beaucoup de beauté, justement, dans la mort. Et presque comme je vous en parlais avec Damien Hirst au début de l'interview, je trouve une certaine beauté dans la mort. Et j'avais un cas en particulier, il y a quelques années, où une dame essaye de, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais elle essaye de traverser l'autoroute et elle s'est fait écraser par plusieurs voitures. Et quand elle est arrivée, vraiment, c'était juste il restait pas grand chose, c'était un tas d'eau et de chair. Et ils nous ont amené justement dans un sac tous les morceaux de son crâne qu'ils avaient retrouvés sur la route. Et je les ai étalés comme ça sur une feuille, et puis j'ai compté 43 morceaux de son crâne. Donc impossible de les remettre ensemble. Enfin voilà, j'ai juste pris une photo pour la documentation et c'était tout. Mais après, ça m'a complètement inspirée. Ce soir-là, je suis rentrée, j'ai dit tiens, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Et au lieu de faire de la peinture et du pastel comme d'habitude, j'ai commencé en fait à assembler des petits morceaux de verre et de miroir et de pierre pour faire comme un crâne, un squelette humain. Et c'était avec des couleurs un peu bleues, j'ai fait ça avec des petites fleurs en papier, tout ça. Et puis, c'était vraiment un moment cathartique parce que j'ai pu, pas dans le cas que j'avais eu cette journée-là, mais dans ce cas, dans cette pièce d'art, j'ai pu rassembler les petits morceaux ensemble. C'est comme une vie qui est complètement brisée, en fait, et que j'ai pu mettre les pièces ensemble. Et j'ai créé cette espèce de crâne, justement, un peu artistique. Et ça m'a tellement plu que j'en ai fait toute une série. Et j'en ai fait plein après ça. Et c'est un peu aussi le lien ou le parallèle avec mon métier. C'est que j'ai souvent l'impression que c'est un puzzle, en fait, que j'essaye de résoudre dans mon travail. Il y a toutes les petites pièces. C'est des pièces d'information qu'on a sur la personne, sur leur vie, sur leur maladie. Et après, c'est toutes les pièces qu'on a pendant l'autopsie, la toxicologie, la microscopie, la photographie et tout ça. Et j'essaye, et aussi l'enquête, évidemment, de par les détectives et tout ça. J'essaie de rassembler tous les petits morceaux d'information que j'ai à ma disposition pour en faire une histoire et pour expliquer pourquoi cette personne est morte. Et ben dans ces cas, avec ces projets artistiques, avec les crânes, c'est un peu en parallèle avec ça. J'essaie de rassembler tous les morceaux pour donner du sens à la mort.
Ah, et puis quelque chose que là tu maîtrises, voilà. Et pour une finalité qui est très jolie. Je mettrai des photos si tu me le permets. Voilà, j'aimerais bien montrer parce que je les ai trouvées très très jolies. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Quelles sont tes joies, tes fiertés dans ce métier?
Mes joies au quotidien, c'est de parler avec des familles qui sont en deuil, et puis la seule chose qu'on puisse faire pour les réconforter, c'est leur expliquer ce qui s'est passé. Et souvent, ce qu'ils veulent savoir, et c'est une question que j'ai presque tous les jours, c'est est-ce que la personne a souffert? Puis bon, oui. Ça, si je peux leur dire que vraiment, je pense que non, je pense que ça a été quelque chose de rapide, je crois qu'ils n'ont rien senti, ils se sont endormis, etc. Ça les rassure tellement et ça, je les sens tellement soulagés et ils sont tellement reconnaissants pour cette information. Et vraiment, c'est ces moments-là où je me dis, bon, toutes les choses que je vois au quotidien qui sont difficiles, vraiment, elles en valent la peine quand je peux rassurer une personne comme ça. Ou justement...
C'est vrai que toi, tu vois passer plein de gens, mais pour eux, ton visage va être gravé à vie, en fait, dans leurs souvenirs. Donc, chaque mot que tu dis est essentiel, quoi, je pense.
Et souvent, justement, j'ai cette discussion et je parle aux gens avec... c'est le pire jour de leur vie. En fait.
Ouais.
Et justement, moi, c'est juste un cas parmi des centaines d'autres, mais pour eux, c'est vraiment un moment important et ça, je l'apprécie vraiment. Et bref, c'est un travail qui est dur, mais qui est vraiment, pour moi, est plein de récompenses vraiment tous les jours. Et je trouve que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a un rôle tellement important que. Oui, c'est une grande fierté pour moi, je dirais.
Et à l'inverse, qu'est-ce que tu changerais dans ce métier si tu le pouvais?
Ça, c'est une très bonne question. Bon, il y a des frustrations, disons. Vu qu'on a une branche de médecine qui est un peu qui est regardée comme, je sais pas, pas une branche aussi intéressante ou importante que les autres, comme la cardiologie, etc. On n'a pas beaucoup de ressources en fait à notre disposition. On n'est pas assez de médecins légistes dans le pays. On n'a pas vraiment, je crois que on n'a pas la finance qu'on devrait avoir par le gouvernement, le budget pour ce qu'on a besoin de faire. Donc ça c'est une frustration. Et puis je voudrais bien en fait que peut-être les gens et le gouvernement se rendent compte de l'importance qu'on a. Dans la médecine, ça serait d'avoir un peu plus de reconnaissance en fait.
Si tu devais lister les qualités nécessaires pour être un bon médecin légiste, tu dirais lesquelles?
Je crois qu'il faut avoir beaucoup de compassion, Même si c'est pas, on pense pas en premier à ça pour un médecin légiste, mais on a besoin d'avoir de la compassion pour les familles justement des décédés. Et ça, je crois que c'est vraiment une des qualités que je vois vraiment chez mes collègues, qui est la plus importante, je dirais. D'être passionné par ce qu'on fait, je crois que c'est quelque chose qu'il faut à tout prix, parce que sinon c'est juste, ça peut être juste trop difficile si on n'a pas la passion qui est derrière. Faut aussi avoir de la patience, car des fois on n'a pas les réponses immédiates, il faut attendre, des fois il faut faire des études supplémentaires, des fois il faut des semaines et des mois avant qu'on puisse avoir des réponses. Donc la patience est aussi très importante.
Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes là, qui nous écoutent et qui souhaiteraient suivre ta voie ?
Je dirais, fonce, vas-y. On a besoin de plus de médecins légistes. Mais surtout, d'être préparé en fait, à vraiment, non seulement les études qu'il va falloir faire, que c'est... En fait, ça prend du temps pour arriver vraiment au stade où tu pourras faire quelque chose qui t'intéresse. Parce que vraiment, toutes ces études de médecine, bon, j'ai adoré, c'était super. Mais par exemple, toutes les 4 ans de pathologie que j'ai dû faire, c'était vraiment pas ce qui me passionnait. C'est pas ce que j'avais envie de faire, mais j'ai dû faire cette formation pour en arriver à là. Donc, il faut justement de la patience aussi, juste pour ta carrière, pour vraiment, il y a un délai en fait dans la gratification.
Bon, et puis après les autres conseils, si on peut leur dire de commencer à disséquer des sardines et puis de concrètement démarrer la mosaïque aussi, quoi. Bon, bah écoute, génial, merci beaucoup Terra. Avant qu'on se quitte, tu sais, je demande toujours à mes invités de me lancer le défi de partir à la rencontre d'autres métiers. J'ai cru comprendre que tu y avais un peu réfléchi. Alors, vers quoi me lances-tu ?
Justement, c'est un métier très peu connu et dont je connais franchement pas beaucoup non plus. Mais je dirais justement l'entomologie médico-légale ou bien l'entomologie forensique, donc qui est l'étude scientifique et ses applications, des interactions entre les insectes et les affaires justement de justice. Et ça concerne typiquement justement des études d'insectes qui sont dans les cadavres pour essayer d'aider dans des enquêtes criminelles. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant d'en parler, de consulter un entomologue forensique, mais on en a souvent eu qui sont venus nous parler ou nous faire des discours par rapport à leur métier et puis des cas qu'ils ont. Des cas criminels, justement, des enquêtes qu'ils ont fait. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais pas du tout ce qu'il faut comme formation pour le faire, mais ça, c'est quelque chose d'assez... je crois que c'est assez rare comme métier, et puis ça m'intéresserait d'en savoir plus.
Bah, génial. Écoute, moi aussi, parce que je connaissais pas du tout et j'étais persuadée que c'était vous qui exerciez cette partie-là. Et ben, ça crée des filles. Hein.
Je sais pas que ça va être dur à trouver.
Bah, je te tiendrai au courant dès que c'est le cas. Écoute, mille fois merci, Terra. Je te souhaite une bonne après-midi, du coup, pour toi.
Merci, pareillement. Enfin, bonne soirée à toi.
Et puis, à très bientôt.
À bientôt.
J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de rentrer dans l'univers passionnant du métier de médecin légiste qu'exerce Terra. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine !